RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver également, Fabrice Fenouillère.
Et moi donc.
Pour un sujet aujourd'hui qui peut sembler ardu, mais que peut-être finalement nous allons réussir à comprendre. On va s'intéresser à l'infiniment petit, et encore plus que l'infiniment petit.
Et ouais, si enfin on arrive à comprendre ce qui se cache dans la physique quantique, les atomes, les particules, un monde complètement différent d'une autre, il va falloir oublier tout ce qu'on sait aujourd'hui avec Charles-Antoine, qui est maître de conférences et chercheur en systèmes complexes à l'université de Jussieu. Il est également auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation et l'excellent Schrödinger à la plage, publié chez Dunod en 2018.
C'était celui qui avait lui,
un chat dont on va comprendre qu'il était parfois de mauvais poil. On le retrouve tout de suite, Charles-Antoine.
Bonjour Charles-Antoine.
Bonjour.
Salut Charles. Et merci d'essayer de nous expliquer en une petite demi-heure ce qu'est la physique quantique. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Je ne peux pas dire mieux.
Je m'attendais à cette question, évidemment.
Une définition première peut-être, oui.
Alors, une définition. Alors, la physique quantique, comme j'aime à le dire à mes étudiants, c'est, pour faire simple, l'une des deux théories majeures, l'autre étant la relativité générale d'Einstein. L'une des deux théories majeures sur lesquelles reposent toutes les autres théories et modèles de la physique actuelle. Alors, pour faire simple et court, la physique quantique, elle s'attache essentiellement à comprendre et décrire l'infiniment petit, c'est-à-dire le monde des atomes, des électrons, des particules élémentaires, et d'une façon générale, de toutes les entités ou briques fondamentales de l'univers à partir desquelles on construit les structures les plus grandes, telles que les molécules, les cellules, les objets de notre quotidien, vous, moi, les étoiles, ou même l'univers en entier, d'ailleurs.
Donc nous, clairement, Charles-Antoine, on est fait de molécules, d'atomes, enfin de ce que vous nous avez décrit, en tant que matière humaine, par exemple, et c'est ça que vous allez essayer d'aller voir. Hein, comment fonctionnent tous ces petits trucs ?
Exactement, exactement. De façon historique, c'est comme ça que la physique quantique a été découverte. Elle n'a pas été élaborée comme l'autre grande théorie, la relativité, à partir d'un principe, le fameux principe de relativité d'Einstein, mais elle a été découverte petit à petit, elle a été élaborée par étapes successives, essentiellement grâce à des observations, des expériences. Et ce qu'ont découvert les scientifiques, donc au début du XXe siècle, typiquement entre 1900 et 1940, avec un pic autour des années du milieu des années 20, ils ont découvert que la physique quantique, que les objets étudiés par ces personnes, que les objets, en particulier ceux de l'infiniment petit, avaient un aspect très déroutant, un aspect onde. Qu'il pouvait être décrit par une onde, une sorte de vibration, même ceux que l'on pouvait penser comme étant solides, comme des particules, etc. Mais une onde d'un autre type, pas comme les ondes habituelles de notre quotidien, comme les ondes qu'on peut voir à la surface d'une mare ou d'un lac, les ronds dans l'eau, ou comme les ondes sonores, ou comme les ondes lumineuses, d'un autre type, une onde quantique, on va appeler une onde quantique, ou qu'on peut appeler aussi une fonction d'onde. Et cette onde quantique a la particularité qu'elle n'existe pas dans notre monde. Elle est définie dans un monde abstrait, mathématique, qui nous permet de décrire ce qui se passe dans notre monde à nous, mais grâce à cet intermède mathématique abstrait.
Une sorte d'univers parallèle, en fait.
Alors, univers parallèle, oui, on pourrait décrire ça. Alors, la notion d'univers parallèle a une autre acception dans le monde de la physique quantique, mais on pourrait dire ça, une sorte de dédoublement, en fin de compte, à notre monde autour de nous est associé à un monde abstrait, mathématique, qui nous sert à pouvoir déterminer les résultats de nos expériences dans notre monde.
Par exemple, Charles-Antoine, peut-être qu'on comprenne bien, même si c'est abstrait, mais pourtant là, il peut y avoir un électron, donc quelque chose d'infiniment petit, c'est ça, qui peut se trouver à plusieurs endroits en même temps, alors que habituellement les objets, les choses ont un endroit précis.
Exactement, exactement. Ça a été une des découvertes les plus intrigantes, les plus déroutantes, même pour les scientifiques de l'époque, surtout pour les premiers scientifiques de l'époque qui sont intéressés à ça, de savoir que les électrons dans un atome, sachant qu'un atome c'est fait d'un noyau central très petit, de façon étonnante, extrêmement petit et qui concentre presque toute la masse des atomes, et autour de ce noyau très petit, eh bien, on a compris rapidement qu'il y avait des électrons. Et la première réflexion logique, c'était de se dire que les électrons devaient virevolter autour de ce noyau central. Et parce que, en mesurant, on trouvait effectivement que certains électrons étaient bien là, à une position donnée, avec une certaine vitesse, etc. Et puis, il a fallu abandonner cette image d'électrons qui virevoltent. Alors, certains modèles parlent même d'orbite d'électrons. Il a fallu totalement abandonner cette image simpliste de modèles d'atomes sous forme de mini-systèmes solaires miniatures, parce que ça ne tient pas, ni d'un point de vue théorique, ni d'un point de vue expérimental. On s'est rendu compte, en effet, que les électrons n'avaient plus de position, ni de vitesse d'ailleurs, n'avaient plus de position en tout cas, lorsque l'on n'observait pas leur position. Il a fallu abandonner l'idée classique, qui était pourtant très intuitive, de dire qu'une chose avait des propriétés en soi, par exemple la position. Dans notre monde quotidien, une chose a une position donnée, et ça nous choquerait de savoir qu'une chose n'a pas de position. Eh bien, dans le monde de l'infiniment petit, même si on a étendu ça à des choses bien plus grosses que l'infiniment petit, en tout cas dans le monde de l'infiniment petit, il a fallu abandonner le concept de propriété en soi, d'existence même en soi de certaines propriétés, dont la position. Donc un électron, oui, dans un atome, on peut dire qu'il n'a pas de position en lui-même, et ce qu'on peut aussi interpréter comme étant qu'il est un peu partout à la fois.
C'est impressionnant quand même, ça laisse sans voix. Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace-temps définissable au niveau des électrons?
Alors si, dans les deux grandes théories, la relativité d'Einstein et la physique quantique, il y a un espace-temps. Dans la relativité d'Einstein, l'espace-temps, c'est le cadre dans lequel tous les phénomènes se passent, et ce cadre lui-même fait partie des choses qui peuvent varier. D'ailleurs, Einstein a montré comment la gravité, l'énergie et les choses qui pouvaient amener à la gravitation, donc l'attirance gravitationnelle entre les planètes, les galaxies, les trous noirs, etc., pouvaient se traduire par des déformations de cette espèce de cadre qu'on appelle l'espace-temps, c'est-à-dire le mélange de l'espace et du temps. En physique quantique, ce cadre de l'espace-temps, il est toujours là. Par contre, on observe des expériences et des phénomènes qui nous laissent sans voix par rapport à cet espace et ce temps. C'est-à-dire qu'on est aussi obligé d'abandonner l'idée que l'espace et le temps fonctionnent de la même manière qu'à notre échelle à nous, dans notre quotidien. Et par exemple, il y a des phénomènes, le phénomène d'effet tunnel, le phénomène d'intrication quantique, qui semble faire fi de l'espace et du temps, semble aller au-delà de l'espace et du temps, en tout cas au-delà des notions qu'on en a habituellement de façon intuitive.
Et là, c'est intéressant, vous avez prononcé, Charles-Antoine, la notion d'intrication quantique. Ça veut dire que, par exemple, lorsque vous avez deux atomes et que vous les séparez, même à 1000 km de distance, si un change à un moment donné de forme, enfin en tout cas va avoir un changement, l'autre à 1000 km instantanément va faire la même chose?
Exactement.
Vous nous racontez un peu ça, c'est surprenant.
Alors l'intrication, c'est un terme même qui a été inventé par l'un des fondateurs de la physique quantique, qui s'appelle Schrödinger, Erwin Schrödinger.
Celui qui avait un chat, oui.
Exactement.
Vous nous raconterez le chat après, oui.
Contrairement à ce que, voilà, qui aimait beaucoup les félins et les chats. Mais ce phénomène d'intrication, il a été créé donc par Erwin Schrödinger, à peu près au même moment que Einstein et des collègues à lui, donc au milieu des années 30. Ce phénomène d'intrication a été créé donc par Schrödinger pour critiquer d'une certaine façon certains aspects de la théorie. Alors attention, il ne faut pas se méprendre, aussi bien Einstein que Schrödinger n'étaient pas opposés à la physique quantique, comme parfois on peut le lire dans certains médias. Au contraire, ils avaient cette capacité très rare qu'ont certains scientifiques à pouvoir critiquer la théorie qui avait fait pourtant leur gloire. Aussi bien Einstein que Schrödinger ont obtenu leur prix Nobel pour la physique quantique. Schrödinger, c'est le père, hein, l'un des pères fondateurs. Et Einstein, souvent, c'est méconnu, parce qu'on pense qu'il a obtenu ses médailles et son prix Nobel pour ses apports à la relativité. Mais en fait, non, c'est pour la physique quantique en 1921. En 1933, donc, Schrödinger obtient son prix Nobel pour ses apports à la physique quantique, avec l'établissement de l'équation centrale de la théorie, qui s'appelle l'équation de Schrödinger, tout simplement. Et en 35-36, Einstein et Schrödinger introduisent la notion d'intrication pour critiquer le fait que ça leur paraissait absurde, ou en tout cas tellement étrange qu'il fallait au moins soulever ce lièvre, de dire que si on met deux objets, qu'on les met en contact, qu'on les fait interagir, donc d'une façon plus technique, on appelle ça l'intrication, et bien une fois qu'ils sont intriqués, on peut très bien les séparer dans l'espace, et ils continuent d'être reliés comme par une sorte de fil invisible. Alors ce lien n'est pas une interaction, n'est pas une force, ils n'agissent pas l'un sur l'autre, mais ils sont reliés comme s'ils faisaient un, comme s'ils étaient un tout, et donc le fait de faire une action sur l'un, instantanément se reporte sur l'autre. Alors tout de suite, ce genre de phénomène a été très, très, très critiqué et très problématique, puisqu'on s'est dit, eh bien grâce à ce phénomène d'intrication qui a été vérifié expérimentalement et qui aujourd'hui est constamment utilisé et vérifié dans nombre d'applications et de laboratoires, mais pas que dans les laboratoires, hein, c'est sorti des laboratoires il y a bien longtemps, eh bien c'était de se dire, en faisant ça, on va pouvoir transporter de l'information plus vite que la lumière. Or, cette limite de la vitesse de la lumière, c'est Einstein, avec sa théorie de la relativité, qui avait dit qu'elle était indépassable. Et on pourrait se dire, bah oui, l'intrication viole ce principe d'indépassabilité, on pourrait dire, de la vitesse de la lumière. Et en fait, on peut montrer que non, parce que l'une des autres grandes caractéristiques de la physique quantique, c'est que c'est une théorie qui est probabiliste. Elle ne donne pas d'informations sur ce qui est, mais sur ce qui pourrait être, sur ce qui peut être. Et donc, la fameuse onde quantique qui est au centre de la description du monde en physique quantique n'est pas une onde de matière, une onde matérielle, je vous ai dit, elle est dans un espace abstrait, mathématique, elle vit dans un monde qui n'est pas le nôtre, un monde parallèle, comme vous aviez dit. Et cette onde nous renseigne simplement sur les probabilités, et donc on l'appelle aussi onde de probabilité. Et combinant cette notion d'onde de probabilité et d'intrication, on peut montrer que oui, il y a bien un effet immédiat, instantané, lorsqu'on fait quelque chose sur une des deux choses intriquées, il y a un effet instantané sur l'autre chose, mais que cette intrication, cet effet instantané, ne permet pas de transporter instantanément de l'information, parce que justement, cette information, elle est aléatoire. Donc en gros, c'est comme si on avait deux pièces de monnaie, qui, en imaginant qu'elles soient intriquées, on en amène une sur la Lune et une qui reste sur Terre, et on fait un jeu de pile ou face. Eh bien, l'intrication, ça veut dire que chaque fois que vous obtenez face sur le sol terrestre, vous obtenez pile sur la Lune. Et inversement, chaque fois qu'on obtient pile ici, on obtiendrait face sur la Lune. Sauf qu'on n'a aucun moyen de savoir si, lorsque je joue à pile ou face, je vais obtenir pile ou face. Donc cet aléatoire-là empêche, en fait, de communiquer de l'information plus vite que la vitesse de la lumière.
Alors, comment on étudie l'aléatoire ?
Alors, comment on étudie l'aléatoire ? C'est une très bonne question. On passe, en fin de compte, de cette notion d'aléatoire, de probabilité, à des notions de statistiques lorsque l'on fait plein de mesures. Donc, la plupart des scientifiques, lorsqu'ils travaillent dans les laboratoires ou en termes d'applications technologiques, on utilise cet aléatoire et cette notion de probabilité en faisant un grand nombre de mesures ou en utilisant un grand nombre de particules, d'électrons, d'atomes, etc. Et ce grand nombre-là transforme les probabilités en nombre. Par exemple, si on a une probabilité de 50% qu'une chose arrive, par exemple au tirage à pile ou face, eh bien si vous faites 1000 tirages de pile ou face, eh bien sur 1000 tirages, il y aura à peu près 500 fois vous aurez pile, 500 fois vous aurez face. Et donc vous allez transformer cette probabilité qui semble un peu abstraite en résultat concret en disant, il y a la moitié qui va donner pile et la moitié qui va donner face.
Bien, eh bien écoutez, on va faire une petite pause musicale, le temps de digérer tout ça, et on se retrouve tout de suite après.
RCFM, Sabienza, Fabrice Fenouillère, Jean-Michel Fradigelli.
Idiama Dialesi e Popolo Wiu.
Pintado ai monti, come un falamento, si è sparto un canto, rion di verità. Popolo Wiu, popolo corso, canta la lotta di indipendenza. La 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 la, la 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 la. La 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 la
su canta la nota di indipendenza. La 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 la.
Diamandialesi, Popoluio.
Sabienza, Jean-Michel Fradicelli, Fabrice Fenouillère.
Et avec nous également Charles-Antoine pour nous et pour essayer de nous faire comprendre ce qu'est la physique quantique. Alors, parlez-nous du chat.
Alors, ce fameux chat. quand je vous disais que Schrödinger était important en physique quantique, la physique quantique, comme j'ai dit aussi, a été élaborée par plusieurs personnes. Ça a vraiment été une élaboration progressive, par étapes. Et donc, il y a une dizaine, une quinzaine de chercheurs très importants qu'on pourrait appeler des fondateurs. Mais Schrödinger, Erwin Schrödinger, cet Autrichien, et on peut considérer comme étant le pilier central de cette physique, puisqu'il est à l'origine, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de l'équation centrale de la théorie, qu'on appelle l'équation de Schrödinger, du concept central et le plus troublant de la théorie, qui s'appelle l'intrication quantique, mais également de l'expérience de pensée, dont il n'a pas été réalisé avec des chats, hein, mais l'expérience de pensée, qui a depuis été réalisée d'ailleurs avec plein d'autres choses, et qui a valu le prix Nobel au français Serge Haroche en 2012, avec un chat qui n'était autre que des photons. Donc il a été aussi, Schrödinger, le créateur de cette expérience de pensée qui est la plus emblématique de la physique quantique, qui est l'expérience du chat de Schrödinger, justement. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que il a poussé cette idée, ce concept d'intrication quantique plus loin en disant, mais si on peut intriquer deux choses au niveau de l'infiniment petit, par exemple deux atomes, deux électrons, deux molécules, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire avec des objets macroscopiques, c'est-à-dire des choses à notre échelle. Et donc, il a imaginé l'expérience suivante où il s'est dit, je vais utiliser un système qui a un comportement quantique patent. Par exemple, un atome radioactif, il a une certaine probabilité, une certaine chance de se transformer, on dit une désintégration, même si c'est pas désintégré, évidemment, c'est une transformation d'un atome en un autre atome. Donc, il prend un atome radioactif qui a une certaine probabilité de se transformer en un autre atome au bout d'un certain temps. Donc, la physique quantique nous décrit cet aléatoire dans la transformation. Elle nous dit, par exemple, qu'au bout d'une heure, eh bien, cet atome radioactif a une chance sur deux d'être transformé. Lors de sa transformation, l'atome radioactif émet un rayonnement qui peut être terrible, comme on peut avoir dans les bombes nucléaires. Et ce rayonnement, il le relie, il imagine un petit système très simple qui libère un poison. Dans une boîte, il imagine maintenant mettre cet atome radioactif et un animal, par exemple un chat. Il se dit, si je referme la boîte et que cette boîte est suffisamment insonorisée, qu'on ne voit rien à l'intérieur, qu'on ne peut pas deviner d'une quelconque manière ce qui se passe dans la boîte, eh bien, au bout d'une heure, soit l'atome radioactif se sera transformé et donc aura libéré son rayonnement, donc le poison, donc le chat sera mort, soit l'atome ne sera pas transformé et le chat sera vivant. Et donc, Erwin Schrödinger dit, selon les lois de la physique quantique, on est contraint de décrire cette boîte avec ce chat et cet atome sous la forme qu'on appelle d'une intrication entre l'atome et le chat, c'est-à-dire soit l'atome est transformé et le chat est mort, soit l'atome n'est pas transformé et le chat est vivant. Donc, c'est comme si le chat était lui-même dans une superposition, dans une espèce d'état entre deux, qui serait à la fois mort et vivant. Et il dit, non, c'est absurde. Mais depuis, on a réussi à faire avec des atomes, des électrons, même avec des petits cristaux, ce phénomène d'intrication et de montrer que on pouvait intriquer des choses qui sont de taille non plus infiniment petit, mais un peu plus gros que le microscopique.
Alors, je vais vous poser la question qui tue. À quoi ça sert?
Ah, plein de choses.
Ah. C'est... non, c'est bien d'avoir un peu de concret aussi.
Alors, le concret, alors, je vais sans doute peut-être vous impressionner, mais en fait, quasiment tout autour de vous dépend de près ou de loin de la physique quantique. Alors, comme je le dis souvent à mes étudiants, il y a deux choses, il y a une sorte de deux révolutions par rapport à la physique quantique. Il y a la première révolution qui est apparue juste après sa création, donc à partir des années 30, 1930, et qui a été l'application de tous ces aspects ondes quantiques évidemment, ondes d'un autre type, tous ces aspects ondes de la matière d'infiniment petit, autour de nous. Donc les gens se sont dit, ben, puisque ce sont des ondes, on va pouvoir les utiliser comme pour toutes les autres types d'ondes. Par exemple, quand vous parlez, eh bien, les ondes sonores qui partent de votre bouche peuvent tout à fait traverser un mur. C'est les voisins, généralement, voilà, ça peut poser des problèmes de voisinage. Oui. Eh bien, c'est cette notion de traverser les murs pour une onde sonore, on a appliqué exactement la même chose pour les ondes quantiques. On s'est aperçu que les ondes quantiques pouvaient aussi traverser les murs. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle l'effet tunnel. Cet effet tunnel, elle est la source de compréhension de ce qu'on appelle le phénomène de semi-conduction, donc des semi-conducteurs qui interviennent dans les transistors, donc dans toute l'électronique et donc dans toute l'informatique qui est autour de vous. Tout ce que vous voyez autour de vous qui comporte des composants électroniques repose sur cette compréhension fine de l'effet tunnel, donc l'effet quantique, dans la matière infiniment petite qui rencontre ces ondes quantiques.
Ça veut dire par exemple, et on a pu vous lire là-dessus, que 2/3 du PIB d'un grand pays comme les États-Unis repose sur ce phénomène de physique quantique à l'intérieur de matériel vendu et autour de nous.
Exactement. Ouais. De près ou de loin, c'est en 2012 que cette estimation a été sortie. Entre la moitié et 2/3 de toutes les applications technologiques autour de nous dépendent de près ou de loin de la physique quantique. Donc je citais tout ce qui est l'électronique, mais évidemment la compréhension de l'atome et donc de l'énergie nucléaire, que ce soit sur Terre dans les bombes ou les centrales nucléaires, donc au niveau de l'électricité, ou bien l'énergie nucléaire qui est produite par le Soleil, tout ça repose sur la physique quantique. Le GPS, souvent le GPS, on apprend que la relativité intervient dans la fabrication et la compréhension du phénomène de positionnement par satellite, le fameux GPS. Eh bien, en fin de compte, ça repose aussi sur la définition très précise d'une horloge, d'un système qui nous donne un temps très précis et très stable. Et ça utilise les ondes quantiques.
On entend parler aussi d'études sur des ordinateurs quantiques.
Bien sûr, ça c'est la deuxième révolution. Donc la première révolution, c'est après les années 30 et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à peu près le début des années 2000. Et puis, donc depuis une vingtaine d'années, il y a une deuxième révolution qui, elle, va changer, a priori, notre vie. Un peu justement comme l'énergie nucléaire a changé nos vies, en tout cas notre façon de voir le monde et la vie après les années 40-50. On en est là. Je ne sais pas si le public se rend compte de la révolution qui est en marche. Mais autant cette première révolution technologique dans la deuxième moitié du XXe siècle, les gens ne s'en rendaient pas compte, mais ce n'était pas grave. C'est un peu comme quand on conduit une voiture, on n'a pas besoin de comprendre comment le moteur d'une voiture fonctionne pour conduire une voiture. Autant là, la deuxième révolution, dont la figure de proue, c'est vraiment l'ordinateur quantique, et d'une façon générale tout ce qui est information quantique, cryptographie quantique, téléportation quantique, etc. Mais vraiment l'élément essentiel, c'est l'ordinateur quantique. Cette révolution-là va changer nos vies. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les principaux États du G20, les principales entreprises dans le monde de l'informatique, soit Google, IBM, Microsoft, Intel, Atos pour l'entreprise européenne et française, ont investi des milliards. C'est-à-dire qu'elles en ont fait leur problème numéro un. Il y a généralement deux questions qui sont mises devant en priorité absolue, c'est l'ordinateur quantique et l'intelligence artificielle.
Mais ça va être quoi, un super calculateur qui va être complètement dément au niveau de la rapidité?
Alors, rapidité, oui, et puissance. En fait, c'est surtout la puissance de calcul qui est phénoménale. C'est-à-dire que dans un ordinateur classique, donc non quantique, tous les calculs fonctionnent avec des opérations binaires, sous forme de bits, BIT, qui peuvent valoir soit 0, soit 1. C'est notre langage habituel, notre langage dans la vie quotidienne, on utilise les chiffres de 0 à 9. Dans le langage informatique, et d'une façon dans tout ce qui est information, on utilise un langage binaire avec tout est codé sous forme de 0 et de 1. Eh bien, la physique quantique nous permet d'avoir ces fameuses ondes quantiques pour décrire des objets qu'on a appelés des qubits, des bits quantiques, qui peuvent être dans tous les états intermédiaires entre 0 et 1, même si ça nous semble un petit peu abstrait ou fantastique. C'est-à-dire que si par exemple on dit que 0 c'est blanc et 1 c'est noir, eh bien un qubit peut prendre toutes les teintes de gris entre 0 et 1, et même plus, parce que c'est un peu plus complexe que ça, c'est comme si ça pouvait prendre toutes les couleurs imaginables. Et donc cette capacité de coder beaucoup plus d'informations avec un seul élément, c'est-à-dire un seul qubit, permet de démultiplier la puissance de calcul. Souvent, l'exemple qu'on donne, c'est que avec un ordinateur classique, si on veut résoudre un problème, par exemple, sortir d'un labyrinthe, même si cet exemple-là est un petit peu simple, mais ça donne bien quand même une idée de la puissance. On dit sortir d'un labyrinthe avec un ordinateur classique, si on lui confie ce problème-là, l'ordinateur classique va explorer tous les chemins possibles pour sortir du labyrinthe jusqu'à trouver celui qui, effectivement, fait sortir du labyrinthe. La physique quantique, avec cette notion de qubit et d'intrication, permet d'explorer tous les chemins en même temps. Il suffit juste d'avoir assez de qubits pour pouvoir explorer tous les chemins en même temps.
Mais ça ne sert à rien, puisque on peut traverser les murs.
mais oui, il faudrait combiner cela avec l'effet tunnel quantique, exactement.
Bon, alors, si je comprends bien, la matière est faite d'ondes. Est-ce que la matière est une illusion d'optique ?
Alors, illusion d'optique au sens premier du terme, non, mais une illusion, oui. La question du sens de la physique quantique a été problématique dès le départ. Hein. Les principaux fondateurs, donc il y a Schrödinger, mais aussi Heisenberg et d'autres, ils étaient très troublés par ce qu'ils avaient trouvé. Ils se sont demandé si ce qu'ils avaient trouvé reflétait vraiment la réalité, si c'était juste un intermédiaire qui allait être remplacé, si c'était juste des mathématiques et qu'il fallait peut-être in fine se fier juste aux mathématiques. Et donc, pendant longtemps, il y a eu le problème de savoir comment interpréter cette science. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Généralement, quand on a une théorie quand on crée une théorie scientifique, il y a pu y avoir des questionnements, des remous au début, et puis petit à petit, il y a un consensus qui se crée pour savoir comment interpréter une théorie. Et après, il n'y a plus d'hésitation. Une théorie s'interprète presque naturellement une fois qu'on a trouvé sa bonne formulation mathématique. La physique quantique, c'est tout l'inverse. Entre le moment où on l'a formulé et aujourd'hui, les questions de son interprétation physique, son sens presque philosophique, n'ont cessé de croître. Et aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine d'interprétations majeures, dont 3-4 vraiment centrales, pour savoir ce que veut dire cette physique quantique. La plupart des grands scientifiques, des fondateurs et des scientifiques d'aujourd'hui, optent pour une interprétation minimaliste. Ils se disent... Ben, on comprend pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire cette onde quantique qui appartient à un autre monde? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose peut être à plusieurs endroits à la fois? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose peut faire fi de l'espace et du temps? Eh bien, il se dit, c'est pas grave. Les mathématiques sont très puissantes et donc on se sert de ces mathématiques pour décrire la réalité et l'interprétation passera en second.
Charles-Antoine, merci. J'espère que nos auditeurs ont été éclairés.
Et oui, et puis on rappelle
par votre
surtout,
démonstration.
Et puis on rappelle surtout qu'il a écrit ce fabuleux ouvrage, hein, Schrödinger à la plage, qui va plus loin que la discussion qu'on a eue et de manière très très ludique et vulgarisatrice bien faite. Il nous permet d'en savoir plus.
Merci Charles-Antoine.
Merci à vous et merci à vos auditeurs.
Au revoir.
Fabrice, à la semaine prochaine.
Oui, l'histoire des religions la semaine prochaine avec Catel Berthelot, historienne.
Merci et bon appétit.